nous allons passer maintenant à Yannick Lintz, qui est conservateur général du patrimoine, directrice du département des arts de l'islam au musée du Louvre. Elle a également été conseillère pour les musées et le patrimoine auprès de Jack Lang dans le cadre du plan Arts et Culture. Elle a dirigé le musée des Beaux-Arts d'Agen, spécialiste du monde oriental. Elle a été le commissaire de l'exposition Maroc médiéval, un empire de l'Afrique à l'Espagne en 2014. Yannick Lintz.
Merci. Bien sûr que l'histoire du Louvre et l'histoire du British Museum a beaucoup de points communs. Nous sommes dans ce cercle des musées que l'on nomme en général comme ces musées de culture universelle dont les collections, pour ce qui est en tout cas de l'ouverture clairement extra-européenne, s'est faite au XIXe siècle. Je ne suis pas là pour retracer l'histoire de la constitution de ces collections, mais nous parlons bien, en tout cas ici, pour ce qui est de la question des restitutions, de ces collections méditerranéennes et moyen-orientales qui sont arrivées en masse au Louvre, je dirais, après 1815, avec le comte de Forbin qui fut le directeur du musée du Louvre sous la Restauration, et je dirais jusque dans les années 1920 à peu près. Donc cette époque où effectivement le Louvre crée le musée des antiquités égyptiennes en 1826 avec Champollion, le musée assyrien en 1846 avec les taureaux de Khorsabad, parallèlement, je dirais, à l'arrivée des lamassous des collections de Ninive au British Museum. Donc il s'agit bien de se pencher sur les collections rentrées au musée du Louvre à cette époque-là. Donc, comme je l'ai proposé aux organisateurs, à Bénédicte et à Yann, que je remercie aussi chaleureusement, à la fois d'organiser ce colloque, de m'avoir invité et d'engager, oserais-je dire enfin, une dynamique collective autour de cette question. Donc, ce que je voudrais apporter au débat, peut-être de la table ronde, c'est mon expérience et ma réflexion autour du rôle des archives dans la question des restitutions. Alors, pourquoi étais-je amenée à me poser cette question ? Il se trouve qu'en 2008, je n'étais pas encore directrice du département des arts de l'islam, mais j'avais la chance de diriger une équipe de 8 personnes auprès d'Henri Loirette, qui était à ce moment-là le président directeur du musée du Louvre, sur une mission, deux missions essentielles, ce qu'on appelle le récollement des dépôts du Louvre à travers le monde, c'est-à-dire certes le Louvre a engrangé des collections d'une grande partie, je dirais, du monde, mais il a aussi distribué des collections dès le début du XIXe siècle à travers le monde. Et nous avons été amenés aussi à travailler sur les fameux MNR, ce qui nous a amenés de manière générale avec mon équipe à mener de vraies enquêtes archivistiques. Donc en 2008, il y avait un contexte brûlant, comme il y en a régulièrement tous les 5 à 10 ans, de demandes de restitution. 2008, les lumières, les projecteurs étaient, pour ce qui est en tout cas du Louvre, du British Museum et de Berlin, centrés autour de la Turquie et de l'Égypte, qui effectivement étaient dans des phases de revendications intenses. L'Égypte, c'était précisément plutôt 2009, avec le fameux Zahi Hawass, qui était le directeur des fouilles, ministre des Antiquités en Égypte, qui a, vous le savez sans doute, lancé cette campagne internationale demandant le buste de Nefertiti à Berlin, au Louvre, le Zodiac de Dendera et d'autres choses ailleurs. En Turquie, c'était 2008 où il y avait une relance sur une revendication qui portait et qui porte toujours sur ce qu'on appelle le panneau de Selim II. Edem connaît par cœur toute cette histoire, c'est-à-dire concrètement un panneau de céramique ottomane qui provient de la tourbée de Selim II dans l'enceinte de Sainte-Sophie que le Louvre a acquis en 1895. Donc, sans vouloir raconter longuement cette histoire, mais je me suis retrouvée devant une commande du président directeur du Louvre qui m'a dit en 2008 « Yannick, il va y avoir dans les années qui viennent une montée en puissance de cette question des demandes de restitution. Je veux que le Louvre puisse s'organiser sur cette question et qu'on ne réponde pas au cas par cas lorsque nous sommes sollicités par ces demandes. La première commande était finalement, il m'a dit, faites-moi une liste des œuvres qui sont susceptibles de faire une demande de restitution. Autant vous dire que très vite, sans rentrer dans le détail, mais je me suis dit, mais c'est un exercice impossible parce que où mettre les frontières sur cette question de la provenance des œuvres et de l'arrivée, je dirais, illicite des œuvres. Et donc, très vite, je me suis dit qu'il fallait s'engager sur un travail sans doute beaucoup plus ambitieux et sur une durée beaucoup plus longue, qui est un vrai travail de compréhension, alors certes sans être naïf sur les contextes de revendications politiques qu'Edem a évoqué et que nous vivons bien sûr notamment encore en ce moment avec la Turquie et ses revendications. Il ne s'agit pas d'être naïf face à, je dirais, à la pression politique, mais la connaissance du réel et de la réalité historique ne fait à mon avis jamais de mal pour contribuer à rendre le débat peut-être plus intelligent et à créer un dialogue aussi sur cette question-là avec les différents pays. Alors, pourquoi un programme ambitieux sur la question des archives, sur la provenance de nos collections? Ça peut peut-être vous étonner. Ce matin, une collègue du Musée des Arts Décoratifs évoquait la question des dossiers d'œuvres. Donc, vous pouvez sans doute ici être convaincu que nous regorgeons d'informations sur le détail de l'arrivée des œuvres. Je ne me suis pas amusée pour 10 minutes à vous montrer des images de nos inventaires. J'aurais pu vous montrer la ligne OA3919 dans notre inventaire en 1895 qui correspond à l'arrivée du fameux panneau de Selim II. La seule information que nous ayons, c'est 165 carreaux ottomans arrivés par un certain acheté en 1895 à un certain Sorlin d'Origny, et nous savons que son intermédiaire était la banque d'Auxerre, qui était à ce moment-là la banque de tous les expatriés. Voilà, mais c'est l'unique information que nous ayons. Donc, autant vous dire que quand les Turcs écrivent en disant « nous avons des documents d'archives », parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'argumentaire politique, on sort la pièce qui va servir à l'argumentaire politique pour démontrer la légitimité de cette demande. Donc, effectivement, nous ne rentrions pas dans une guerre des archives, mais en tout cas, nous sentions qu'il fallait nous armer sur cette question des archives. Ce que nous avons essayé de faire, encore une fois, sans rentrer dans le détail, ce qui était intéressant, c'est que finalement, le travail qui a été entamé dans les années 90 sur les MNR et puis la nécessité que nous avions dans le cadre très technique du récollement des collections du Louvre dans les musées en région, de vérifier la provenance des œuvres parce qu'il y avait une loi qui induisait une possibilité de transfert de propriété des collections du Louvre en région qui était arrivée avant 1910. Donc nous nous devions de développer une méthodologie de recherche recherche sur les provenances. Donc c'est bien cette méthodologie qui nous a amené et qui nous a aidé à entamer ce nouveau travail concernant l'histoire des collections extra-européennes arrivées au Louvre au XIXe siècle. L'un des, je rentre pas dans le détail de cette méthodologie, mais je dirais qu'une des leçons que l'on a tirées de ce travail, c'est qu'il fallait effectivement non pas se contenter des quelques fonds d'archives des institutions publiques, archives des musées nationaux, archives nationales, la fameuse cote F21 ou F22 que les spécialistes sur la question connaissent, mais qu'il fallait aller plus loin pour justement sortir de ce choix subjectif des archives qui faisait que le storytelling allait être forcément orienté et viser plus une sorte d'exhaustivité, même si c'est ambitieux. Et ce qui me semble important, et je finirai mon intervention en vous plongeant ou en tentant de vous plonger un peu dans ces archives par quelques extraits, mais ce qui me semble très important dans ce souci, je dirais un peu plus systématique d'étude des archives, c'est de comprendre. Alors ce matin, et je dirais que la ligne directrice du colloque, c'est faire parler les objets. C'est vrai que dans la recherche archivistique, on tente plutôt de comprendre l'état d'esprit et le contexte des acteurs. Donc c'est bien l'histoire des hommes et de leur positionnement dans certains contextes publics et privés qui nous permettent de reconstituer cette scène à des moments précis des circulations d'œuvres. Donc, pour terminer peut-être par un exemple rapide, parmi les recherches que nous avons faites, nous avons bien sûr essayé de nous concentrer notamment sur ce fameux panneau de Céline II, dont nous avions finalement peu d'informations. Et outre les informations supplémentaires que nous avons pu trouver dans les archives publiques, il m'a été donné notamment d'étudier les 412 lettres de la correspondance entre Sorlin d'Origny, donc le vendeur de ce panneau au Louvre, avec Salomon Reinach, un des grands acteurs aussi de l'école française d'Athènes, fonds conservé à la bibliothèque Méjanès d'Aix-en-Provence. C'est une correspondance de 412 lettres entre 1882 et 1883. C'est intéressant de resituer ce contexte. En fait, Salomon Reinach était très proche de celui qui est devenu en 1881, donc un an avant ses courriers, directeur du musée impérial et qui établira la loi sur les antiquités en 1884. Dans ces correspondances, j'aimerais juste vous lire quelques extraits qui vous font toucher du doigt justement la complexité de ces situations. Je ne suis pas là pour prendre parti et pour dire qui a raison, qui a tort, et peut-être qu'on ouvrira le débat après sur les responsabilités partagées, mais pour montrer qu'effectivement il y a en tout cas partage de responsabilités dans ces contextes. Donc une lettre du 5 décembre 1882 donc de ce fameux Sorlin d'Origny qui habite à Constantinople, qui était ce qu'on appelait un Levantin, et qui écrit à Salomon Reinach, son ami, lui-même ami du directeur du musée impérial de Constantinople, et qui dit « Hamdi est furieux après moi parce que mes marbres sont ici sans avoir passé par la douane. Je lui ai ainsi démontré que toutes ces lois prohibitives sur les fouilles ne servaient à rien. Plus on ennuiera les Européens, plus on leur défendra de fouiller, plus on fera des fouilles sans firmament au nez et à la barbe des agents du gouvernement. » Voilà, pour évoquer le contexte aussi de cette nouvelle loi qui effectivement traumatise un peu ces agents européens. Autre extrait, 17 novembre 1883, toujours Sorlin d'Aurigny à Salomon Reinach. J'ai lu dans le temps le compte-rendu de la communication de M. Renan sur votre lettre à Akbar. Il s'agit en fait d'un document conservé aujourd'hui au Louvre, un document épigraphique venant de Syrie du 5e siècle. Le seul moyen de faire entrer ce texte au Louvre serait de s'adresser à quelqu'un qui serait près du pacha d'Alep. En tout cas, inutile d'attirer l'attention d'Amdi là-dessus, etc. Il continue. Un peu plus loin, j'ai fini par dénicher le frère du Mektoubji de Vilayet d'Alep. Comme tous les Alépins, c'est une canaille. Il va donc écrire à son frère pour lui dire de faire parvenir la lettre d'Abgar au consul de France à Beyrouth, moyennant quoi le consul payera une certaine somme et sur avis de réception du consul, je donnerai 10 livres turcs à ce sudit frère. Acceptez-vous ces conditions ? Le Mektoubi étant un personnage, il faudra lui faire remettre au moins 500 francs par le consul, peut-être 1000 francs, pour l'envoyer à trouver le reste de l'inscription. Si vous croyez que le Louvre consent à payer tout cela, écrivez-moi. Le rôle du consul est tout passif. Il est prié de ne faire aucune démarche. Si le Mektoubi d'Alep préfère une autre combinaison de paiement, je vous le dirai. Et puis, pour ne pas dépasser mon temps, je finis par une autre correspondance passionnante de 96 lettres de Sorlin d'Aurigny à Gustave Schlumberger. Gustave Schlumberger, qui était un byzantiniste, numismate, collectionneur, marchand, enfin tout ça était quand même polyvalent. Il n'a jamais eu de poste de conservateur au Louvre, mais il a été académicien. Donc cette correspondance est à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, correspondance entre 1888 et 1893. Et il dit, et je terminerai par cette citation, « Athènes achète. On y paye même fort cher, comme je puis m'en convaincre, par l'exode du peu de plomb que l'on trouve ici et qui presque tous vont en Grèce. Mortmann achète lui aussi tant pour lui que pour Berlin. Je ne vois et n'admets que deux solutions, cabinet des médailles, Louvre ou encore un musée de province. S'il est impossible de traiter soit avec le cabinet des médailles, soit avec le Louvre ou même un amateur parisien, j'y renonce et garde mes plombs quoi qu'il advienne. » Ce qui est intéressant, c'est que la suite montre aussi un contexte, vous le savez, qui est la guerre entre les États européens dans cette époque coloniale, clairement entre les agents allemands, anglais et français. Et je termine peut-être par la fin de la lettre qui s'interrompt en fait, mais qui dit « En attendant, je désirais vous expédier un colis postal. Ce sont quelques bronzes purement byzantins pour le Louvre. Avant de les leur donner, vous pourriez peut-être en tirer le sujet d'une communication scientifique. » Quant aux objets de vitrine dont vous me parlez, je regrette de ne pas en posséder. Ici, donc à Constantinople, les bagues, bijoux et objets d'or sont quasi introuvables et filent tous discrètement vers l'Europe. Idem pour les ivoires qui proviennent de monuments provinciaux. Mais j'ai par contre une assez jolie série de pois byzantins, etc., etc. Et je pourrais bien sûr vous en lire beaucoup d'autres. Et ce qui est intéressant dans les recherches purement concernant l'historique du panneau de Selim II, c'est que l'argument aujourd'hui des Turcs est de dire « nous possédons une facture faite par Sorlin d'Aurigny de la fabrication des copies aujourd'hui sur le monument qu'il aurait fait fabriquer en France dans une manufacture qui n'existe plus, la manufacture de Choisy. Donc nous n'avons jamais vu ce document, peut-être existe-t-il, mais nous avons trouvé d'autres documents dans lesquels nous comprenons en tous les cas, contrairement à ce que disent les Turcs, et il faudrait en parler et rechercher davantage, que Sorlin dit bien à un moment donné dans sa correspondance qu'il ne veut pas envoyer une partie de ce panneau qu'il voulait d'abord vendre au musée des arts décoratifs parce que il sait qu'il y a l'autre moitié chez un collectionneur à Constantinople, ce qui veut bien dire a priori qu'il l'a pas arrachée du monument pour... voilà, je n'en tire aucune conclusion décisive. C'était juste pour vous montrer qu'il pourrait être intéressant à l'avenir de rentrer dans de vraies collaborations sur la connaissance réelle de ces contextes d'acquisition. Merci.